Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Première étape, c'est de cuisiner au maximum maison. Je rappelle que pour manger équilibré et sain, pas besoin de se prendre pour master chef ou top chef, hein. ni un dîner presque parfait, on ne sera pas noté, c'est pas une compétition, mais de revenir même au départ, si on n'a pas l'habitude de cuisiner, de revenir à des choses toutes simples. Quête de carottes râpées déjà toutes prêtes avec la vinaigrette, les betteraves, etc., le taboulé.
Hello, je suis Isadora.
Et moi Marisa.
Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel.
Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations.
Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine.
N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, Isadora et Marisa, pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle.
Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez.
Bonne écoute.
Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Intention. Alors aujourd'hui, c'est moi, Isadora, qui serai votre hôtesse. Je suis en compagnie de ma grande sœur, Karine, dont on vous parle tellement depuis de nombreuses années. Mais elle est enfin là. Elle existe bel et bien. La voici. Bonjour Karine.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs? Parce que nous, on a beaucoup parlé de toi depuis longtemps maintenant. Mais en fait... Tu es qui, Karine?
Alors, je suis pas un fantôme, effectivement, j'existe bel et bien. Moi, j'habite dans le sud-ouest de la France, je suis à Pau et je suis donc diététicienne nutritionniste. Voilà, je travaille en partie en thérapeutique dans un hôpital psychiatrique et après, j'ai toute une partie en libéral où je fais beaucoup d'actions de terrain, d'éducation et de prévention à la santé essentiellement.
Super. Et du coup, tu es diététicienne depuis ?
Alors moi, je suis diététicienne depuis 12 ans maintenant parce que j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc avant, je travaillais dans l'industrie aéronautique, rien à voir, dans les achats. Et voilà, et j'avais envie de me rapprocher de l'humain et puis l'alimentation. Et je pense que cette famille, l'alimentation, la nutrition, ça a toujours été une passion qui au départ se manifeste par la cuisine. Et puis en définitive, j'avais envie d'en savoir plus et plus et plus et voilà, et de travailler avec des personnes et pas du matériel.
Super. Du coup, maintenant, vous l'avez compris parce qu'on vous l'a dit beaucoup de fois sur nos réseaux sociaux, mais on ne l'a pas dit ici sur ce podcast. Karine rejoint donc notre entreprise, donc avec Marisa, il y aura moi et il y aura Karine maintenant, dans notre nouvelle entreprise qui est donc une plateforme digitale qui aura pour vocation de vous guider vers une alimentation plus saine. Donc, on vous l'a déjà dit, nous, Marisa et moi, nous ne sommes pas diététiciennes, donc on ne se sentait pas de créer cette plateforme seule. Donc, on a fait appel à notre grande sœur qui a dit un grand oui quand on lui a demandé est-ce que ça te dirait de participer à cette aventure. Donc à partir du 7 septembre 2020, donc notez-le bien dans votre agenda, le site Intention, la plateforme digitale va ouvrir et on va vous donner donc des conseils, on va vous guider pour une alimentation plus saine sous format audio, sous format vidéo, sous format papier. Enfin, il y aura plein de choses et on a hâte de vous ouvrir les portes de cette plateforme très très bientôt. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler des conseils de notre sœur, donc diététicienne nutritionniste, pour commencer à équilibrer son alimentation. Déjà, on va commencer directement à entrer dans le vif du sujet en posant une question qui, somme toute, est bête, mais pourtant qui est très importante. C'est quoi une alimentation saine ?
Ah, c'est une bonne question. Alors déjà, d'un, tout le monde peut avoir une représentation de l'alimentation saine, mais si on doit faire une définition globale, je dirais que, bah, comme tout le monde le sait, c'est manger équilibré. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi manger équilibré ? Donc ça, on en parlera plus tard. Mais une alimentation saine, bah, c'est donc manger équilibré à certains moments de la journée, remettre un peu l'alimentation à sa place. Et bien sûr, aujourd'hui, on va prendre aussi tout le contexte environnemental. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais plutôt qu'on aborde l'alimentation saine d'une façon plus personnelle et un petit peu sur quel est son comportement, puisque je pense qu'aujourd'hui, on a un flot d'informations sur l'alimentation. Donc, j'aimerais plutôt qu'on se concentre aujourd'hui sur l'alimentation saine, mais plutôt personnelle.
D'accord. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire, par exemple... Qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Comment je me comporte?
Alors du coup, moi je dirais plutôt que dans ma vision des choses, l'alimentation saine, je dirais qu'on peut l'avoir un petit peu de deux façons. C'est-à-dire, oui, qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Mais aussi, comment je me comporte avec mon assiette? Ou peut-être les deux. Parce que du coup, soit je vais réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette, ou soit plutôt comment je me comporte avec elle. Mais je peux être aussi dans les deux cas. Donc du coup, avant toute chose, c'est savoir où est-ce que je me situe avec ça. Qu'est-ce que je veux corriger pour moi-même avoir une alimentation saine? Est-ce que j'estime que dans mon assiette, j'ai pas ce qu'il faut? Ou est-ce que avec mon assiette, je me comporte d'une façon saine? C'est-à-dire, est-ce que j'y prends du plaisir? Est-ce que je prends conscience de ce que je mange? Est-ce que je culpabilise? Est-ce que je réponds à mes sensations de ma faim, de mon rassasiement, par exemple? Donc, c'est plutôt vers ça que j'aimerais qu'on se dirige aujourd'hui et qu'on parle un petit peu, que les gens se posent des questions un petit peu sur eux, leur comportement, plus que qu'est-ce que je mets effectivement dedans au gramme près, puisqu'aujourd'hui, c'est la grande question des gens. Et manger sain, finalement, si on regarde, c'est un acte naturel de manger normalement. Et je ne vais pas compter au gramme près ce que je vais mettre dedans. Si j'écoute bien mes sensations et que je fais attention à moi, je vais le faire tout naturellement. Et c'est vers ça que j'aimerais que les auditeurs puissent arriver.
En fait, normalement, ce serait comme ça qu'on devrait tous manger. Mais c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, il y a tellement maintenant de flots d'informations sur l'alimentation saine qu'on ne sait même plus s'écouter, puisqu'on passe plus de temps à savoir est-ce que je dois peser mon aliment, est-ce que 100 grammes de pâtes, waouh, c'est peut-être un peu trop. Du coup, c'est vrai qu'on a du mal à se comporter sainement devant son assiette. Mais pour ça, je présume qu'il faut du coup repenser certaines de nos représentations, certains de nos schémas qu'on a dans la tête.
Ah ben exactement, les schémas, ils ont complètement changé, surtout les représentations. Et la question à se poser pour aller vers une alimentation saine, c'est effectivement de se resituer par rapport à ça. Dans le flot d'informations, petite parenthèse quand même, c'est de faire très attention à tout ce qu'on peut entendre, puisque nous, pays occidentaux, assez riches quand même, avec de la nourriture à disposition constamment, on a ce privilège quand même de pouvoir faire attention à ce qu'on mange, et à l'inverse, de pouvoir aussi avoir des débordements excessifs et créer des soucis de santé majeurs aujourd'hui, qu'ils soient physiques ou psychiques, en lien avec l'alimentation. Donc du coup, si on doit se resituer par rapport à l'alimentation et savoir, tiens, qu'est-ce que je pourrais corriger dans mon alimentation pour qu'elle soit plus saine, déjà, je vais me poser les questions sur mes propres représentations, par exemple sur la structure de mes repas. Est-ce que je mets trop de quantité? Est-ce que je mange de la viande à chaque repas tous les jours? Est-ce que quand je prends un dessert après mon repas, est-ce que j'ai encore faim ou est-ce que c'est juste purement par plaisir, du coup, est-ce que ça, je pourrais pas le repositionner ailleurs? C'est aussi savoir remettre l'alimentation à sa place. En toute logique, l'alimentation, elle doit être là au moment du repas. Si je commence à manger tout le temps en dehors des repas, que j'ai des grignotages multiples, je vais peut-être me poser pourquoi je fais tous ces grignotages. Est-ce que je mange assez à mes repas? Est-ce que je suis plutôt stressée et que je réponds à un circuit de récompense? Donc ça, c'est des questions quand même majeures à se poser. Et puis quand même, revoir un peu la notion de plaisir. Par exemple, à toi, si je te demande le plaisir, qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui? Comment tu le décrirais?
Ah, c'est compliqué. Ah, c'est hyper compliqué. C'est quoi le plaisir pour moi? On parle que de l'alimentaire.
On parle que de l'alimentaire.
Le plaisir pour moi alimentaire, c'est de me mettre à table quand j'ai hyper faim et de me faire le bon repas, quoi, et de me dire je prends du plaisir à manger ce que je me suis préparé et j'ai faim et je suis contente de le manger.
Donc c'est plutôt ça pour moi. Chacun, alors si je vais poser la question à quelqu'un d'autre, d'ailleurs j'invite à tous ceux qui écoutent peut-être de se dire, tiens, je vais répondre à cette question, c'est quoi pour moi le plaisir? Avoir aussi les influences qu'on peut avoir. Dans l'influence du plaisir, on va avoir l'influence de la famille, de si je suis seule, je mange seule ou pas seule. Oui, si vrai. Pour moi c'est important justement de faire attention à ma santé ou pas. Est-ce que déjà, même je m'en suis déjà préoccupée? Et surtout, est-ce qu'il y a une forte influence des marketing? Parce que le marketing aujourd'hui, au niveau de l'alimentation, il a un peu faussé cette notion de plaisir. La notion de plaisir, aujourd'hui, ils vont nous dire que faut manger très dense nutritionnellement, c'est-à-dire très gras, très sucré, alors qu'en fait, on se rend compte que ça fait des dégâts. Donc, effectivement, repenser ces représentations en termes de... comment je me situe au niveau des repas, comment je me comporte, est-ce que je mange de façon incessante dans la journée ou est-ce que je fais que des petites prises alimentaires complètement déstructurées, et cette notion de plaisir, où est-ce que je veux la mettre? Eh ben ça déjà, ça va être une très bonne question pour aller vers une alimentation saine. D'ailleurs, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes patients avant même de parler ce qu'on met dans l'assiette, puisqu'il faut savoir quand même que la diététique, ça me fait rire quand les gens disent toujours « Ah, maintenant, mais là, ce que je mange, c'est diététique. » Diététique, il faut savoir que c'est l'alimentation, certes, mais c'est aussi l'hygiène de vie. Tout compte, nous, on va prendre beaucoup en compte l'environnement, le rythme, l'occupation des personnes, comment elles se sentent aussi psychiquement, comment va leur sommeil. C'est un tout. Souvent, moi, je vais travailler avec les patients d'abord sur tout ce qu'il y a autour avant même de savoir ce qu'il y a dans l'assiette. Je pense que tout le monde sait aujourd'hui, avec tous les messages qu'il y a eu, qu'il faut manger des légumes, qu'on doit réduire la viande, qu'il faut manger quand même plus local, etc. Donc, pour moi, c'est quand même pas la solution majeure parce que si c'était si simple que ça, ça se saurait. Vous dire ce que vous devez manger, c'est pas compliqué. En revanche, changer ses habitudes, ça l'est un petit peu plus. Réfléchir sur soi, sur un acte qui est normalement naturel, qui revient tous les jours, plusieurs fois par jour, et ben là, c'est déjà un peu plus complexe de se repositionner, de prendre un peu de distance avec ce que l'on fait. Et je tiens à dire aussi que aller vers une alimentation saine, c'est pas se fixer des objectifs de dingue tout le temps et se mettre la pression. C'est un peu ce qu'on essaie aussi de nous faire faire. D'un côté, on nous donne... un marketing de dingue qui nous dit manger gras et sucré et pas forcément des produits de bonne qualité. Et de l'autre, on culpabilise les gens en leur disant « Ah là là, vous mangez trop, vous souffrez de surpoids, vous développez un diabète, etc. etc. » Donc, apprendre à se recentrer là-dessus et à s'apaiser là-dessus, je pense que c'est très très important. Et si on arrive juste à donner un peu de bon sens aux gens, pour moi, ça c'est aller vers une alimentation plus saine et adaptée à soi. Du coup.
En fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, là, tu es en train de nous dire, pour une diététicienne nutritionniste quand même, que tu ne nous parleras donc pas de la composition d'un plat, parce que finalement, tu as raison, on sait tous manger sainement. En vrai, tout le monde sait que manger un hamburger à McDonald's tous les jours, à tous les repas, c'est pas sain. Tout le monde sait qu'il faut manger des légumes, enfin qu'il est préférable en tout cas de manger des légumes, de manger des bonnes protéines, des bons féculents, etc. Mais c'est vraiment, en fait, nous-mêmes, notre comportement qui est à revoir parfois.
Parfois, c'est vraiment... et puis c'est parfois profond, l'alimentation, c'est quelque chose de très très personnel. Ça appartient vraiment à chacun, on a tous des façons différentes de s'alimenter, pour plein de raisons, par rapport à notre transmission familiale, à nos croyances, à ce qu'on a pu lire en information qui nous parle ou qui nous parle pas, à ce qu'on veut... mettre dedans, manger. Pourquoi est-ce que c'est tout le monde n'est pas égaux là-dessus. Il y a des gens qui aiment manger, d'autres non. Il y en a qui sont des petits appétits, d'autres non. Il y en a qui n'ont pas eu la chance d'avoir une instruction sur l'alimentation ou une éducation alimentaire. Donc il y a des petites choses, à éduquer et à répondre aussi aux questions des gens. En revanche, tout le monde sait que effectivement on doit manger plus végétal qu'animal. Pourtant, c'est pas forcément ce qui se passe. Donc, la question, elle est plutôt là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu m'as dit, on va se faire un petit podcast pour présenter un petit peu ce qu'est une alimentation saine. Pour ma part, le message que j'aimerais faire passer, oui, c'est vraiment plutôt au-delà de ce que vous allez mettre dans votre assiette, qu'on verra plus tard, grâce d'ailleurs au site qui va arriver, c'est déjà de réfléchir à comment moi je me comporte avec l'alimentation, parce que c'est ça qui va m'aider à aller vers une alimentation saine.
Non, mais c'est tellement vrai. En fait, c'est marrant parce que ça fait des années maintenant qu'on parle d'alimentation saine sur YouTube, sur Instagram ou ici, avec Marisa. Et nous, quand on faisait par exemple 5 conseils, c'est toujours buvez de l'eau, ajoutez des végétaux, ajoutez bref plein de choses dans votre assiette. Mais se focaliser vraiment sur le comportement, on l'a peu fait en fait.
Et oui,
et c'est intéressant que ce soit toi qui l'amène, je trouve.
Et ça, c'est ça qui va être sain, justement. Mmh. Et effectivement, c'est indispensable. Ça, c'est un discours qu'on a après. C'est nécessaire, ces messages que vous aviez dit. Mmh. Mais c'est pas, pour moi, la priorité dans un premier temps. C'est vraiment de se connaître. C'est un peu comme si vous décidiez de changer de métier. Tout le monde n'est pas fait pour être boulanger ou tout le monde n'est pas fait pour être ingénieur. On va se poser et dire bah, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux dans ma vie personnelle. Est-ce que j'ai envie de travailler avec des gens, pas des gens. Est-ce que je veux travailler tout le temps, pas tout le temps. Bah, l'alimentation, finalement, aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs dingue, hein, on a tout ce qu'il nous faut à disposition. Et en même temps, aujourd'hui, on est obligé de se reposer et de se dire bah, on sait que ça crée des dégâts, quels qu'ils soient. Et on est obligé de se reposer, nous, pays riches, à se dire bah, comment on fait pour manger correctement, en fait. C'est que aujourd'hui l'alimentation elle est devenue beaucoup un hobby et elle compense énormément de choses aussi pour plein de raisons, pour des conditions sociales parce que ben on n'a plus accès à grand chose d'un point de vue financier et le seul plaisir qu'on va se trouver de liberté ça va être l'alimentaire parce qu'on voit de l'alimentation partout hein. Je pense que tous ceux qui nous écoutent regardent un peu autour de vous de la bouffe on en voit partout et du coup ça perturbe un petit peu les messages, les sensations naturelles, et on déplace un petit peu tout. Donc, c'est un vaste, vaste sujet. On pourrait effectivement en parler des heures.
Donc, pour récapituler, le premier conseil, c'était d'évaluer, en fait, ce que c'était pour nous l'alimentation saine. Est-ce que c'était plutôt ce que je mets dans mon assiette et comment je me comporte avec mon assiette? Le deuxième conseil, donc, là, dont on a parlé pas mal de temps, c'est vraiment de repenser nos représentations. Quel est donc ton troisième conseil pour commencer à équilibrer son alimentation aujourd'hui?
Bah, du coup, une fois qu'on s'est posé un petit peu ces questions, on va aller se dire, ah tiens, en ayant réfléchi à ça, où est-ce que je suis moi de là-dedans? Est-ce que je pourrais éviter des pièges en fait où je me suis un petit peu installée? C'est-à-dire, on revient sur l'histoire des grignotages. Est-ce que je grignote beaucoup? Donc du coup, je vais me poser la question... quelle stratégie je pourrais mettre ou réfléchir à pourquoi je grignote beaucoup? Est-ce que je mange au-delà de ce qui me suffirait aussi? Parce que ça, c'est aujourd'hui un gros problème. On mange au-delà des quantités dont on aurait besoin. Donc, est-ce que j'écoute plus mes sensations, par exemple, de rassasiement ou de faim et je mange au-delà? Est-ce que je mange très vite à table? Si je mange vite, ça veut dire que je mastique pas déjà. Donc, du coup, je vais perturber mes messages entre mon cerveau et mon estomac qui communiquent entre eux. Vous savez tous qu'il faut un certain temps pour qu'il passe, une vingtaine de minutes à peu près. On va même plutôt recommander de manger 30 minutes, c'est bien parce qu'on prend bien le temps et justement de se représenter de ce qu'on mange, le plaisir que l'on a, le goût, etc., toutes les sensations. Donc, est-ce que je mange vite ou pas? Justement, est-ce que je mets des légumes à chaque repas? Est-ce que ça, c'est une erreur que je pourrais éviter ou un petit piège que je pourrais éviter? Est-ce que dans ce que j'ai lu ou dans mes représentations personnelles, j'enlève des groupes d'aliments? Vous savez qu'aujourd'hui, on a banni pendant des années les féculents, les matières grasses, par exemple. Alors qu'on sait que ce sont des groupes d'aliments essentiels. Le féculent, il va m'amener l'énergie. Il va surtout m'amener des sucres lents, des sucres qui vont bien nourrir mon cerveau. Mais effectivement, j'ai peut-être pas besoin d'en manger le double ou le triple de ce que je devrais, mais c'est nécessaire. Les matières grasses, c'est vital. Mon corps ne sait pas le fabriquer. En revanche, est-ce que je mange les bonnes matières grasses ou pas les bonnes matières grasses? Parce que dans la nutrition, on fait toujours la différence entre la quantité et la qualité. Je peux très bien manger la quantité qu'il me faut, mais pas de qualité. Et à l'inverse, je peux très bien manger la qualité sans avoir la quantité suffisante. Donc, je vais essayer de me repérer par rapport à tout ça. Quel piège je peux éviter dans mon alimentation? Voilà, je vais me repérer où je me situe là-dedans. Et ça va être important.
D'accord. Mais Nietzsche, pendant que tu parlais, tu disais le troisième conseil, se repérer, se reconnaître. Du coup, moi, je me dis, je vais me poser, du coup, moi, je le ferai après le podcast, je me poserai et je me dirai, tiens, mais moi, par exemple, je mange hyper vite. Ça, tu l'as toujours dit, Karine, j'ai toujours entendu ma grande sœur me dire oh, « qu'est-ce que vous mangez vite ?» Parce que c'est vrai que nous, on a tendance à manger très vite, que ce soit Marisa, que ce soit moi, que ce soit mon frère, que ce soit papa. Maman, elle est plutôt comme toi, elle mange plutôt normalement. Mais moi, 30 minutes à table, à mastiquer, c'est un truc qui ne m'arrive jamais. L'autre fois, je me suis même chronométrée en me disant « tiens, combien de temps je mets pour manger ?» J'ose pas le dire, j'ose pas te le dire. En plus, tu me regardes.
Mais si, parce que c'est intéressant, parce que c'est le problème du siècle. On dit qu'il faut manger doucement, mais on permet jamais aux gens de manger doucement, même à l'école. Quand on fait, moi, j'avais fait le test au collège de mon fils avec les parents d'élèves. On s'était dit, on va simuler, on est des élèves, on sort de cours. Voilà, le temps qu'on a entre parcourir les couloirs, poser le sac dans la salle, faire la queue, passer ma carte au self et manger, j'ai eu 7 minutes. Autant vous dire que j'ai même pas fini mon plat, même pas le dessert, rien. Donc déjà, même dans l'éducatif des enfants, la vie moderne, on est un petit peu toujours en sens inverse. Donc, du coup, c'est compliqué. Mais manger, quand tu disais 30 minutes mastiquer, c'est pas 30 minutes où je mastique.
Non, bien sûr, oui. Ah,
c'est 30 minutes.
C'est, on pose les assiettes, ouais, voilà, c'est ça.
Exactement.
On pose les couverts, des choses comme ça. Moi, je me rends compte que je pose quasiment jamais mes couverts. C'est-à-dire que je mange. Et l'autre fois, je me suis chronométrée, j'ai mangé en 8 minutes. Alors que moi, j'ai pas d'excuse. C'est pas comme si je mangeais pas chez moi à l'heure que je veux, à mon rythme. Donc moi, logiquement, j'ai pas de rush à manger vite le midi. Je mange de chez moi, je travaille de chez moi. Je pourrais me poser tranquillement, prendre du temps. Moi non, je mange vite. En plus, je regarde une vidéo en même temps, généralement. Du coup, c'est vrai que pour le coup, j'estime avoir une alimentation saine, mais le côté manger vite, va falloir vraiment que je le travaille. Et j'arrête pas de me dire que je dois le travailler, mais c'est plus fort que moi.
Alors c'est vraiment justement, un gros souci. Tu vois que c'est bien que t'en aies parlé, parce que c'est très intéressant. Ça revient à ce qu'on disait au début. Te dire de pas manger vite, ça, je pense que tout le monde peut faire. Il n'y a pas besoin d'être diplômé ou formé comme moi pour le dire. En revanche, pourquoi je mange vite? Sans doute parce que c'est une habitude de longue date et c'est un automatisme, en fait.
Oui.
La deuxième chose que tu as dit très intéressante, c'est l'écran. Manger devant un écran perturbe son cerveau. Donc, c'est plus intéressant, par exemple, de manger avec un fond musical que de manger devant un écran, puisque je vais occuper mon cerveau à autre chose. Lui, ça lui demande beaucoup d'efforts. Il faut qu'il prenne conscience de ce qu'il mange, mais en même temps, il faut qu'il soit concentré pour écouter, pour regarder, pour analyser l'information qu'on lui donne. Donc, c'est assez perturbant pour lui. Tiens, voilà, tu feras un petit test. Mets un fond musical plutôt que de manger devant un écran et tu verras que ça va être beaucoup plus simple aussi, parce que tu vas être plus avec ton assiette et dans le moment de manger, et pas forcément dans le moment de regarder ou d'écouter. Et ton écoute et ton visuel sera sur ton assiette, du coup.
Mais en plus, c'est sûr, je l'ai déjà fait peut-être cet exercice une fois ou deux, et puis la mauvaise habitude revient au galop, mais c'est juste incroyable. Donc je me rends compte, oui, que je vais me poser, et je vais me dire, Isadora, je mange peut-être trop vite, parce que dans ce que tu as dit, par exemple, c'est vrai que moi, ce que je remarque, c'est vraiment le manger vite. Peut-être manger parfois un peu trop, c'est-à-dire que je sais que j'ai plus faim après mon repas. Je sais qu'il y a un bon dessert qui m'attend. Je vais avoir du mal à me dire, attends, je vais peut-être le garder par exemple pour le 4 heures. Ça m'arrive, très souvent c'est plutôt ça que je vais faire. Mais il y a plein de fois où je vais me dire, ah non, j'ai plus faim, je le sens, mais je vais quand même manger parce que le dessert, il est quand même intéressant et j'ai envie de le manger maintenant.
Mais plus on mange vite, plus on peut manger en quantité. Ça, c'est physiologique.
Oui, c'est ça.
C'est pas forcément que de la gourmandise. C'est ce que les parents, des fois, disent à leurs enfants. Ah, t'es trop gourmand. Non, c'est pas que ça. Si on mange vite, et ça, c'est tout le monde, on va forcément manger plus en quantité. Et c'est là où, justement, on va se sentir très lourd. On va avoir un gros coup de barre après manger. Parce que la digestion, ça demande un effort. Et puis en fait, aussi de pas manger doucement, ça veut dire qu'on mastique pas, mais ça veut dire que du coup, on commence mal sa digestion. La digestion, elle commence dans la bouche. Elle commence avec votre salive. Votre salive, elle a un intérêt. Quand on dit qu'on mastique, en fait, ça ensalive les alimentaires, c'est-à-dire que ça s'entoure de salive, et ça va commencer la digestion. Du coup, mon estomac, il va attendre vraiment ce qu'il lui faut, et ma digestion sera facilitée. Si je mange vite, je vais avoir déjà beaucoup de morceaux. Donc, mon estomac, ça va lui demander un travail plus intense. Je vais sécréter aussi beaucoup plus de sucre parce qu'il va falloir décomposer tous ces aliments. Donc, du coup, ça a tout un intérêt aussi physiologique de manger vite. Et ça résout souvent. Alors, c'est long. Attention à les personnes qui nous écoutent. Vous ne dites pas, à partir de demain, je mange doucement. Si c'est votre cas, on le travaille. Ça, c'est mon environnement. Est-ce qu'il est propice à pouvoir manger plus calmement ou pas? Est-ce que je ne fais pas que des assiettes toutes molles? Si effectivement je me fais toujours de la purée avec un poisson à l'eau, ça va être vite avalé. Donc effectivement, mais normalement, même ce qui est mou, je dois l'ensaliver. Normalement, on devrait mâcher même sa purée, même son yaourt, pour l'ensaliver et pas l'avaler en deux-deux. Mais du coup, et peut-être que si je mange que des choses molles, je vais peut-être rajouter quelque chose à mâcher dedans pour ralentir un petit peu le processus. Est-ce que je me fais une jolie table si effectivement je mange dans ma boîte de conserve ou dans mon tupperware? J'ai peut-être pas envie de rester trois plombes devant, donc je vais peut-être me mettre une assiette, peut-être me mettre mon verre, mes couverts, etc., me mettre la table déjà. Donc c'est plein de petites astuces comme ça qui vont aider à aller vers une alimentation saine aussi.
Je note. Ce midi, là, par exemple, je commence à avoir faim, il est 11h40.
C'est l'heure.
Ce midi, je mange toute seule. Je serai seule avec moi-même. J'essaie de ne pas mettre d'écran devant moi et je vais voir ce que je te dirai. Je t'enverrai un petit message pour te dire comment j'ai mangé. Et ça se trouve, les deux seules fois où j'ai vraiment réussi à manger lentement, C'est dingue parce que j'ai pas fini mon assiette. J'en avais mis un peu trop dans mon assiette, alors que moi, je trouve que c'était une assiette classique. Et j'ai pas fini. Et même Mathieu, donc mon conjoint, pour ceux qui ne le savent pas, m'a dit, je pense que c'est la première fois que je te vois ne pas finir une assiette. Parce que comme j'avais pris le temps vachement de manger, bah en fait, je suis arrivée à satiété. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais
rassasiement
plutôt. Plus vite que quand d'habitude, bah, je mange en 5 minutes, donc tu penses bien que je suis rarement rassasiée.
Mais oui, ça va très vite. Et bah, tu essaieras et tu me diras.
Ouais. Que ça... Et je vous invite à faire la même chose, hein, ceux qui nous écoutent, à se dire on va manger plus doucement. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent très bien à manger doucement. Moi, je n'en fais pas partie de cette catégorie de la population. Alors, est-ce que tu peux nous donner du coup des petites clés, comme ça, que tu nous dessémines gentiment, pour aller justement vers une alimentation plus saine au-delà du coup du comportement?
Oui, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, bah alors là, oui, effectivement, on a abordé le comportement et dans des petites choses concrètes. Alors là, c'est pareil, hein, ça ne va pas être un scoop. Il ne faut pas s'attendre à des grands secrets gardés sous ce coffre. La première étape, c'est de cuisiner au maximum maison. Je rappelle que pour manger équilibré et sain, pas besoin de se prendre pour Master Chef ou Top Chef, hein, ni un dîner presque parfait, on ne sera pas noté, c'est pas une compétition, mais de revenir même au départ, si on n'a pas l'habitude de cuisiner, de revenir à des choses toutes simples. Prendre par exemple les premières choses que l'on achète toutes prêtes. Alors je vais reprendre l'exemple puisqu'en ce moment c'est l'été, des crudités, puisque c'est mes patients qui me posent souvent cette question en ce moment. La requête de carottes râpées déjà toutes prêtes avec la vinaigrette, les betteraves, etc., le taboulé. Ben voilà, peut-être commencer par des petites choses comme ça, toutes simples à faire, mais les faire maison, parce que déjà ben, on aura un produit quand même plus sain. On va avoir une vinaigrette bah, que l'on va mesurer, donc on saura ce qu'on a mis dedans. Je rappelle quand même que les produits industriels, il faut qu'ils gardent leur odeur, leur goût, leur texture. Donc tout ça, ça se fait pas naturellement. Si vous faites votre carotte râpée tout seul à la maison, qu'il vous en reste un peu, vous le conservez, vous verrez que en 48 heures max, il faudra le manger. Hein, ce qui n'est pas le cas d'un produit industriel. Donc déjà, commencer par cuisiner au maximum maison, petit à petit, à se mettre à faire des choses soi-même. Et vous verrez aussi que justement sur le comportement alimentaire, pardon, ça a aussi une influence. Hein, donc, puisqu'on ne va pas l'apprécier de la même façon, on va développer une certaine forme de plaisir aussi, et ça va être un petit peu différent. De tenter aussi dans les petites clés bah, de goûter un petit peu à tout. Alors je reprends un légume de saison, la courgette typiquement, c'est un légume que tout le monde n'apprécie pas. Alors que bah, nous dans notre famille hein, c'est un légume au contraire préféré. Mais c'est pas parce qu'on n'aime pas un légume sous une forme qu'on l'aimera pas sous une autre. Donc ne pas partir sur le fait de se dire ah ben non, mais de toute façon, moi, la courgette, j'en ai goûté à la persillade. Vraiment, c'est un truc, je peux pas le voir en peinture. Peut-être que je l'aimerais en gratin. Peut-être que je l'aimerais griller sur mon barbecue ou ma plancha. Peut-être que je vais l'aimer en tarte. Peut-être que je vais l'aimer crue et pas cuite aussi, en salade. Donc, voilà, essayer de goûter au maximum. Et ne pas hésiter aussi à goûter des aliments qu'on n'a pas mangés depuis très longtemps. Ça, je vais reprendre l'exemple, par exemple, des épinards. J'en ai mangé à la cantine. Je trouvais que ça sentait mauvais. Je trouvais que le goût, ça me plaisait pas. Ouais, mais c'était il y a peut-être 20 ans, 10 ans, 30 ans, on ne sait pas. Le cerveau, il se rappelle plus du tout du goût que ça a. Hein. L'épinard, même vous, hein, vous serez incapable de définir le goût de l'épinard. Du coup, bah, d'essayer de retenter, de renouer avec des choses que l'on croit ne pas aimer. Ça va permettre de bien varier et d'aller justement, l'alimentation saine, c'est aussi varier son alimentation. Et du coup, je vais m'éduquer un petit peu au goût, petit à petit. Il faut savoir qu'il faut goûter entre 7 à 10 fois pour vraiment savoir si c'est une aversion ou pas. Hein, que ce soit chez l'enfant ou l'adulte. Donc l'éducation au goût, elle se fait même adulte. Hein. Il n'y a pas de dire « Ah ben non, maintenant, c'est bon, j'ai 30 ans ou j'ai 40 ans et ça, c'est plus possible pour moi. »
Mais c'est vrai que tu as raison parce que je pense qu'il n'y a pas un jour sur Instagram où je n'ai pas un message où on me dit, par exemple quand je suis en train de montrer ce que je suis en train de préparer à manger, « Oh, ça a l'air trop bon, mais comme je n'aime pas cet ingrédient, je n'en mange pas. » Et à chaque fois, je leur dis, mais tu n'aimes pas comment je le prépare là, moi, ou tu l'aimes pas en général? Non, je n'aime pas cet aliment. Et c'est vrai que les gens, ils ont tendance à être très, très fermés, c'est-à-dire, je n'aime pas cet aliment, donc je ne vais pas retenter de le manger. Et même si moi, je te le propose, par exemple, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, tu vois, avec Brice, notre frère, qui est venu chez nous, à la maison, qui n'aiment pas le concombre, je l'ai fait différemment. Je lui ai dit, bah goûte, parce que moi, j'aime pas le concombre. Je déteste le concombre. Vraiment, c'est un légume que moi, je n'aime pas, personnellement. Mais je l'avais fait, je l'avais coupé en tout petits morceaux, dans un taboulet avec de la vinaigrette, avec d'autres produits dedans. Du coup, le goût du concombre, il était beaucoup plus doux. Et Brice, qui n'aime pas ça, je lui ai dit, bah goûte, parce qu'il a mis tout au bord de son assiette. Je lui ai dit, bah non, mais goûte, parce que ça se trouve, tu verras que moi, je l'aime pas non plus, et pourtant, j'ai adoré. Et directement, il m'a dit, non, je te dis que je n'aime pas le concombre, donc je le mangerai pas. Et du coup, ça m'a fait tilt, et on en a parlé, tu vois, après, on s'est dit, mais pourquoi? Parce que, en soi, tu ne l'as pas mangé depuis très longtemps, puisque tu n'aimes pas ça, donc tu n'en achètes jamais. Tu n'as pas mangé depuis sûrement des années. Je te l'ai préparé d'une façon où normalement, tu peux être susceptible d'aimer, mais tu n'oses pas goûter. Et ça, c'est vrai que c'est souvent le cas. Les gens n'osent pas goûter parce que comme je n'aime pas, je reste sur mes positions, je n'aime pas. C'est dommage parce qu'on passe à côté d'une variété d'aliments qui pourrait nous manquer et qui, en plus, bah, c'est super bon, quoi.
Ben oui, parce que regarde, si on reprend l'exemple du concombre, le concombre, on peut le manger cuit aussi, donc peut-être que ben, je l'aimerais pas cru, mais je l'aimerais cuit. Je peux le râper et le faire un peu comme un tzatziki avec du yaourt à la grecque, de la menthe, etc., dedans, de l'ail. Je peux le faire tout simplement avec un yaourt bulgare qui traîne au frigo et plutôt qu'une vinaigrette. Je peux effectivement le mélanger à d'autres légumes ou à un féculent. Donc effectivement, il aura jamais le même goût parce que suivant comment je vais le transformer, plus je vais couper petit, plus ça va avoir de goût. Mais au contraire, je vais pouvoir en mettre moins. Donc, si j'aime pas, bah, c'est l'avantage. J'en mets un petit peu moins pour essayer de m'habituer. Mais c'est vrai que l'éducation au goût, c'est un gros, gros problème. Et surtout, c'est pour ça que je parlais du cuisiner maison. Les produits industriels, si on est très, très habitué à manger aux produits industriels, on est toujours sur les mêmes notes de goût. Les notes sucrées, les notes salées, beaucoup, avec beaucoup d'exhausteurs et de texturants aussi. Donc, on est habitué à une certaine texture et une certaine odeur des produits. Un truc tout bête, bah, toi qui as une petite, les petits pots, par exemple, si vous testez un petit pot, alors je ne parle pas des petits pots de fruits parce qu'eux, ils sont vraiment compotés, mais si je prends l'exemple d'une purée de carottes Blédina, ah pardon, peut-être ne faut pas citer de marque.
Et non, si tu peux.
je prends un petit pot de bébé. Faites une carotte maison, une purée de carotte maison et faites un petit pot de carotte. Le bébé qui va être habitué à manger le petit pot de carotte aura beaucoup de mal à manger la carotte maison et vice-versa. Donc si je veux vraiment développer mes goûts et être sur des vrais goûts d'aliments, on ne peut pas couper de cuisiner maison.
Hein. Et du coup, ça veut dire en plus encore une fois qu'on passe pour l'éducation au goût pour nous. On est adulte, donc c'est à nous de le faire nous-mêmes, mais aussi pour l'avenir, donc pour nos enfants.
Exactement.
Parce que si on donne à nos enfants, par exemple, moi je vois avec Alba, moi je fais tout maison. Un jour, j'ai pas eu envie de faire maison parce que j'avais pas pris le temps de le faire. Je suis allée acheter un pot, un petit pot, même pourtant bio et tout, avec une composition qui était propre. Déjà, niveau, tu sais, quand tu mets la cuillère dedans, c'était un petit peu liquide, alors que moi, quand je fais une purée maison, c'est un peu plus dense. Et elle m'a jeté la cuillère partout, elle a jeté, elle a refusé de manger. Du coup, on s'est retrouvé avec pas de déjeuner, puisqu'elle a refusé de manger ce plat. Je l'ai goûté, et en effet, c'était une texture qui était lisse. Je n'ai même pas su reconnaître quel était, par exemple, le pané de la carotte, du poulet qu'il y avait à l'intérieur. Et je me suis dit, en fait, ma fille s'est tellement habituée à manger maison qu'elle a du mal maintenant à manger du pas maison. Et je pense que ce serait pareil avec les enfants qui ont l'habitude de manger industriel et qui se retrouvent après à manger des vrais épinards. Le goût, il est pas, c'est deux salles, deux ambiances. Ne serait-ce que déjà l'odeur.
Et c'est pour ça que, du coup, l'éducation au goût, elle va être faussée. Et c'est surtout aussi pour ça. Alors ça, je le répète souvent à mes patients, n'oubliez pas que l'industrie agroalimentaire, grand public, elle n'a pas vocation d'être là pour votre santé et votre alimentation saine. Elle est là pour faire du business, c'est un commerce. Donc on n'oublie pas ça, parce que souvent on entend, oui mais ça, comme je l'ai vu dans telle ou telle grande surface, je me dis que, et puis si je mange mes 5 fruits et légumes, apparemment ça peut compenser. Non. Faut pas tout faire un amalgame. Donc c'est pour ça que dans les messages là que je suis en train de vous divulguer et qu'on partage tous ensemble, si vraiment on arrive à faire retrouver du bon sens aux personnes et de revenir à une alimentation qui est plus à sa place, moi je me dis après ce qu'il y a dans l'assiette, ça se fera naturellement et là c'est gagné quoi. Et c'est ça, j'espère qu'on arrivera à promouvoir. Et moi c'est vrai que dans ma pratique, la diététicienne c'est pareil. Souvent on me dit ah mais toi tu manges et tout, mais moi souvent je dis Mais si vous voyez une diététicienne qui aime pas la bouffe, faut la fuir. C'est comme si tu disais un mécano qui n'aime pas les voitures. Enfin, ça a pas de sens. Hein, une diététicienne, déjà, elle aime manger. Alors certes, elle est plus alerte sur plein de choses, et ça, c'est une profession, donc on n'y coupe pas. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais, et je travaille beaucoup là-dessus, sur un peu une autre vision de l'alimentation et un peu se détendre avec ça, et voilà, de se reconnaître et qu'on n'est pas obligé de faire comme le voisin et qu'il n'y a pas forcément une seule règle qui convient à des millions de personnes. Il peut y avoir plusieurs règles. Après, il y a des B.A.B.A. effectivement. Hein. Du coup, je suis en train de penser, en parlant de tout ça, c'est sur les petites clés de mon coffre-fort que tu m'as demandé, si on en revient, c'est aussi sur le goût, c'est aussi développer sa curiosité, mais pas que la curiosité au niveau du goût, la curiosité aussi au niveau qu'est-ce qui se fait aussi ailleurs. Quand on voyage, ça peut être aussi des initiations. Quand je suis avec des copines ou des copains et partager une recette aussi, s'inviter les uns les autres, parce que ça aussi, ça participe à une alimentation saine, parce que si je me mets à cuisiner maison, que je reçois mes amis, j'ai envie de montrer un petit peu mes petites découvertes, mes petits plats. Ça aussi, c'est du partage. Et tout ça, ça fait partie de l'alimentation saine et équilibrée aussi, parce que la nourriture, ça se partage aussi.
C'est joli. Et du coup, tu as d'autres petites clés ou on passe au cinquième conseil ?
Non, alors la dernière petite clé que je dirais quand même, c'est qu'on parle toujours, quand on parle alimentation, revient à la définition de la diététique. La diététique, c'est pas que l'alimentation, c'est aussi le corps et le soin de soi. Donc, aller vers une alimentation saine, c'est aussi redynamiser son corps, se remettre en mouvement. Hein, c'est aussi ça. Donc, je pourrais pas réfléchir à mon alimentation saine sans non plus remettre mon corps vers une activité physique. Et je rappelle, et ça je vais le répéter plein de fois, et je pense que du coup les gens l'enregistreront bien au fur et à mesure, même sur le futur site, l'activité physique, c'est pas forcément du sport, et c'est pas forcément du footing, c'est pas forcément grimper des cols à vélo, hein, c'est se bouger dès qu'on peut. Je vais peut-être chercher mon pain à pied, il fait beau, tiens, je vais aller me faire une petite balade et m'aérer, et je peux même en profiter pour faire, pourquoi pas, une petite méditation, ramasser des petits champignons quand c'est la saison, des petites fleurs, etc. C'est taper dans le ballon avec mes enfants dans le jardin, c'est jardiner, c'est bricoler, c'est faire le ménage, c'est se mettre en mouvement, en fait, hein, c'est ça l'activité physique. Et ça, c'est quand même le meilleur ami et le meilleur couple avec l'alimentation saine.
Mais c'est vrai qu'on a un peu perdu l'activité physique, parce que avec les réseaux sociaux, mais toi Karine, tu n'es pas à fond sur les réseaux sociaux, tu ne vois pas tout ce qui se passe sur les fit girls, les ci, les ça, et en fait, ce qu'on voit maintenant sur les réseaux sociaux, c'est il faut faire du sport, il faut faire des squats. En plus, il y a une phrase que tu ne connais pas, qu'on dit « no pain, no gain ». Donc, en gros, il faut de la souffrance pour gagner quelque chose. Donc, en gros, il faut de la souffrance pour gagner un corps un peu de folie, tu vois. Et du coup, les gens, ils sont toujours à se dire « mais j'aime pas le sport ». Ils s'obligent à faire du sport. Du coup, ils ne tiennent pas sur la durée, bien évidemment. Parce qu'ils vont choisir les sports qui se font actuellement, c'est-à-dire le fitness. Après, c'est super. Si on aime le fitness, moi, je me dis, OK, il n'y a aucun souci. Ça met à la salle de sport et faire des haltères, pourquoi pas. Mais on oublie que l'activité physique, ce n'est pas uniquement aller faire des squats à la salle de sport. On oublie que c'est ne serait-ce que bouger dans sa maison, ne serait-ce que même quand on est au téléphone, marcher. Moi, j'adore aller, par exemple, quand je suis au téléphone, plutôt que rester assise, j'aime bien aller marcher, soit dans le jardin, etc. Et ça, c'est vrai que je trouve qu'on a oublié ça. On estime que alimentation saine, c'est-à-dire être sportive 3 fois par semaine, 1 heure par jour, etc. Quoi. C'est dommage.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, c'est aussi le gros paradoxe. Alors moi, le mot souffrance pour faire du sport, franchement, ça m'hallucine, sauf en cas de, les professionnels qui font des compétitions, effectivement, leurs entraînements et leurs objectifs, c'est des gens très, très, très exigeants. Oui, là, je peux l'entendre. Dans la vraie vie de tout le monde, et moi, je tiens quand même à dire que je ne parlerai toujours que de la vraie vie, faut se remettre aussi dans le contexte. On n'a jamais autant parlé de bien-être, et à côté, tu me parles de souffrance pour faire du sport. Je trouve quand même que c'est un gros paradoxe. Des sports, il en existe des tas. Donc oui, effectivement, on va pas renier. Le sport, c'est effectivement bon pour la santé. Et je rappelle quand même que c'est pas bon que pour le poids, parce qu'on associe toujours l'activité physique et le sport avec le poids. Je rappelle quand même que ça permet de bien faire circuler mon sang, ça me permet d'enlever mes tensions nerveuses, ça me permet de créer une hormone qui s'appelle l'endorphine, qui va vraiment me permettre de me détendre, ça va permettre de solidifier mes os, ça a tout un intérêt, pas que sur le poids, hein, ça je tiens à le dire. Mais pour les gens qui aiment pas le sport, alors d'un côté on va vous parler de plaisir et on va vous dire allez vas-y souffre parce que tu vas tenter d'avoir un corps de rêve. Déjà un corps de rêve c'est quoi? Est-ce que mon corps il est capable d'avoir cette image que je me représente et que j'aimerais être? Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais sans doute jamais l'atteindre, faut pas rêver. Non, parce que dans la vraie vie d'ailleurs il serait temps de montrer des gens quand je m'assois que effectivement j'ai deux petits ronds qui se font à mon ventre, c'est normal, hein. Je crois que c'est Patrick Bruel qui disait c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas, voilà, ça avait été repris en gag ce truc. Non, ce n'est pas sale et ce n'est pas grave, c'est normal. Et des fois, ce qu'on montre en image du sport, là, c'est grave, je trouve, parce que on rentre dans la culpabilité des gens. Donc, je vais jamais renouer avec mon corps, parce que ça aussi, on n'en parle jamais assez. Mais de s'accepter tel qu'on est, d'accepter mon corps, la façon dont il fonctionne. Y a des gens, effectivement, qui font la même taille que moi et qui ont un métabolisme tellement rapide, ils vont rester toujours minces. Alors que moi, je regarde une chocolatine ou un pain au chocolat, pardon, pour ceux qui habitent dans les autres régions. Et à peine je le regarde, j'ai l'impression de prendre 2 kilos. Voilà, on n'est pas tous fait pareil. Apprendre à se connaître, je pense que c'est vraiment la base pour l'acceptation, pour savoir quel comportement je vais avoir avec moi en termes d'alimentation, mais aussi en termes d'activité physique. J'aime pas le sport, peut-être que je peux aller danser tous les samedis soirs avec mes copines parce que ça, par contre, ça m'éclate et que je me défoule. J'aime pas le sport, peut-être que comme j'ai un vélo dans le garage qui traîne, peut-être que de prendre ma voiture tout le temps pour aller au boulot, je vais peut-être prendre mon vélo si c'est faisable, bien évidemment, parce que j'entends déjà les gens qui vont dire ah oui, mais moi je peux pas, c'est trop loin, mais des astuces, il y en a des tas, et pas forcément de la souffrance, et pas forcément faire un sport. Plein de gens qui n'aiment pas le fitness, et aujourd'hui c'est vrai que c'est la grosse tendance. Moi, tous mes patients me disent je vais m'inscrire à la salle de sport. Ok, on en reparle, tout le monde n'est pas fait pour être enfermé au milieu de gens. Si déjà je suis un peu complexée de mon corps, aller me mettre en Barbie gym au milieu de tout le monde, peut-être que ça va pas le faire. Je suis peut-être pas obligée. Donc, il y a plein d'activités physiques. Si absolument vous voulez faire un sport, franchement, aujourd'hui, l'information, on l'a tellement vite sur Internet. Vous allez voir, il y en a des tas. Ça peut être tous les sports un peu qui viennent de l'Asie sur les arts martiaux. Ça peut être, il y a de la danse, il y a des tas de formes de danse. Il y a des groupes de marche, des groupes de rando. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas ça qui manque dans l'offre. Mais pitié, arrêtez de vous faire du mal dans votre tête, à vous forcer à faire des choses. De gens que vous voyez en plus sur les réseaux sociaux où ça reste que du virtuel, ne l'oublions pas quand même. On ne sait pas comment elles le vivent et l'exigence que ça peut demander et la souffrance intérieure aussi que ça peut représenter. Donc ça, attention avec ça parce que si après c'est justement pour faire ça et je souffre tellement et je culpabilise tellement que justement je vais me réfugier après dans la bouffe, je suis pas sûre que ça a un sens.
Ça devient un cercle vicieux après qui est même plus sain du tout pour le coup.
Pour le coup, exactement.
Non, c'est hyper intéressant. Donc, activité physique. Moi, perso, c'est la marche. Moi, je pourrais passer des heures à marcher tous les jours. Mais après, le sport dur où on dit qu'il faut souffrir. Tu vois, l'autre fois, j'ai fait une vidéo d'une fit girl sur YouTube. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre un petit peu au sport depuis le temps que je n'en ai pas vraiment fait depuis l'arrivée d'Alba. Mais j'ai tenu 5 minutes. Et à force qu'elle me dise... Tenez, oui, ça fait mal, mais tenez, vous faites ça pour vous, pour votre corps, vous voulez la silhouette? Hop, j'ai dit stop parce que, en fait, ça me saoule, ça me gaffe d'avoir mal, je ne vois pas pourquoi je devrais avoir mal pour me sentir bien. C'est hyper bizarre, non? D'avoir mal pour se sentir bien.
Ouais,
donc, j'arrête, je suis allée marcher.
Suivant le sport qu'on va faire, et surtout si on n'a pas fait de sport depuis longtemps, bien sûr qu'on va avoir mal. On va refaire travailler des muscles qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. Mais après, qu'est-ce que moi je vais chercher dans le sport? Est-ce que c'est pour me maintenir en forme et justement quand même dynamiser un peu ma masse musculaire et voilà, juste être un peu tonique? Ou est-ce que je veux absolument avoir des plaquettes de chocolat, tous mes muscles à forcément dessiner? Alors attention, ça s'entretient parce que c'est dur à gagner, mais c'est très facile à perdre aussi. N'oublions pas ce paramètre. Voilà, c'est aussi qu'est-ce que je veux y mettre dans ce sport. Pourquoi je le fais en fait? Est-ce que je suis obligée à ce point-là d'avoir mal? Moi, perso, c'est vrai, bon, comme les gens ne me connaissent pas, je vais le dire. Oui, moi, je fais de la capoeira et c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. J'ai plus de prof depuis un an, donc voilà, ben, je me remets à nager parce que j'adore nager. Par contre, je choisis toujours ma piscine où il y a un jacuzzi, un hammam, parce que après, et je nage que 30 minutes, hein, je tiens à le dire, je nage pas 2 heures. Mais parce que ben, c'est une des activités physiques, justement, qui, je trouve, me détend beaucoup et enlève vraiment mes tensions nerveuses. Mais après, voilà, la marche, je prends mon vélo pour aller travailler quand je peux, parce que je peux pas toujours, des fois je me déplace loin. Mais des petites astuces, peut y en avoir plein, et là on vous donne des exemples, mais à chacun aussi de trouver les siens, parce que les nôtres, ben voilà, on n'a pas la science infuse et c'est pas forcément une vérité universelle, quoi. Donc, et pareil pour le fitness.
Voilà, ce qui plaît à une personne ne plaît pas à l'autre. Tu vois, Marisa, elle, ça va être la kizomba. Moi, perso, ça me dit pas de faire de la kizomba. Toi, tu fais de la capoeira depuis longtemps. Moi, perso, c'est pas un sport qui m'interpelle. Mathieu fait du tennis. Moi, ça m'intéresse pas. Il faut vraiment que chacun trouve son sport, son activité physique pour redonner, comme tu disais, une dynamique à son corps. Et je pense que c'est quand on sera plus à l'aise avec l'activité physique qu'on aura choisie, qu'on aimera, on chouchoutera du coup notre corps différemment avec plaisir, que là on arrivera aussi en plus à une alimentation saine, plaisir, et pas je vais me frustrer pour perdre du poids, parce qu'on en revient toujours à ça, hein, c'est souvent la question, c'est perdre du poids. Hein.
Ou le maintenir, parce que moi je dirais changer cette notion de perte de poids, le maintenir mon poids, oui, être en forme, oui, et avoir cette notion de plaisir. Je pense que c'est indispensable de ne pas avoir du plaisir aussi que dans son assiette. Si je choisis de faire un sport, il faut que j'y prenne du plaisir, sinon c'est une contrainte. Je pense qu'on a suffisamment de contraintes dans la vie, qu'aujourd'hui les choses en plus se compliquent. On ne va pas en plus choisir de s'en infliger soi-même, c'est quand même dingue, hein. Donc,
non, c'est clair.
Donc, dans les petites clés, ouais, effectivement, l'activité physique, c'est imparable pour retourner vers une alimentation saine. Ça, c'est indispensable.
Et du coup, pour finir, le cinquième conseil que tu nous offriras tout de suite.
Ah, on est déjà au 5.
Ouais, on est déjà au 5, ouais. Ça passe vite.
Alors, sur le 5, ce que je vous proposerais, c'est quand même, après tout ce qu'on s'est dit, et notamment sur ta précédente question, c'est quand même d'avoir ce qu'il me faut à la maison. Ça va être compliqué de vouloir manger plus sain si j'ai rien dans mes placards, ou si j'ai que des biscuits, ou si j'ai que des raviolis en boîte. Ça va être un petit peu compliqué. Donc, d'essayer d'avoir un petit peu les essentiels, d'avoir toujours un paquet de pâtes, un paquet de riz, un peu de légumes. Si j'ai pas envie d'aller au marché ou d'acheter forcément des légumes frais tout le temps, d'essayer d'avoir toujours 2 poches de légumes nature dans mon congèle qui vont me dépanner, d'avoir pourquoi pas des fruits aussi dans mon congélateur. D'avoir un petit peu tout ce qu'il me faut de base dans les produits basiques à la maison, puisque c'est ce qui va me permettre de faciliter en fait le retour à une alimentation saine. Et bien sûr, je vais l'adapter à moi, hein, c'est-à-dire que je vais l'adapter en fonction de mon budget déjà, puisqu'aujourd'hui l'alimentation quand même c'est un coût, donc je vais me l'adapter. Peut-être que ce mois-ci je vais peut-être m'acheter mes 2 poches de légumes surgelés, quelques épices, et puis le mois d'après, on m'a dit que les matières grasses c'était bien de les varier, je m'achète une nouvelle bouteille d'huile, et puis ainsi de suite. Donc je vais faire en fonction aussi de mon budget et de la composition de mon foyer. Hein, puisque ça va être important. L'autre chose qui peut être pas mal, donc j'ai ce qu'il faut à la maison, ça peut être aussi, alors je sais que, même si moi je suis pas sur les réseaux sociaux, je suis quand même un peu mes sœurs, et je sais que la grande tendance c'est quand même les meal prep ou bon le batch cooking, chacun l'appellera comme il veut, mais il y a aussi cette solution là, c'est vrai que si je veux manger sain et que j'ai un mode de vie speed, ou que le soir je rentre, je suis tellement à plat que j'ai la flemme de tout faire, peut-être que je peux m'accorder des temps. Alors il y en a, c'est une fois par semaine, je sais que vous le faites plutôt le week-end, il y en a qui le font peut-être tous les 3 jours, donc voilà, ça peut être aussi une aide, hein, la préparation des menus à l'avance, ça peut être vraiment une aide, parce que je peux le congeler, parce que je peux m'avancer, c'est pas forcément même préparer des repas complets, ça peut être tout simplement couper tous mes légumes, et moi j'aime bien cuisiner par exemple tous les jours, mais par contre tous mes légumes sont prêts, tout ce qui est je peux faire à l'avance, je le fais à l'avance tout le temps, et comme ça je rentre, j'ai plus qu'une cuisson. Ça peut être aussi, j'ai tout ce qu'il me faut à la maison, dans mes placards, dans mon frigo, dans mon congèle si j'en ai un, et je peux aussi cuisiner la veille pour le lendemain. Moi je faisais ça quand mon fils était petit, parce que j'avais vraiment pas le temps de le faire le soir, mais au moins quand j'arrivais je faisais chauffer ce qu'on avait à manger, et par contre ce qui cuisait c'était pour le lendemain. Donc voilà, des petites avoir ce qu'il faut et anticiper. Je pense que faut pas oublier qu'une diététicienne, elle est, c'est pas une magicienne, hein, pas du tout, loin de là, ça je le répète assez souvent. Si je veux aller vers une alimentation saine, je vais devoir réfléchir à qui je suis, mais aussi comment je m'organise. Qu'est-ce qui est le plus facile pour moi et comment je peux anticiper pour me faciliter la vie. Hein, faut arrêter de se mettre des barrières et de se dire c'est insurmontable ou quoi.
Et puis il faut être honnête aussi envers soi-même.
Exactement.
Parce que parfois on se donne des fausses excuses pour. On veut une alimentation saine, puis moi à me dire sur les réseaux oui, mais toi tu as le temps, tu travailles de la maison, moi je n'ai pas le temps, moi j'ai pas. Et du coup, parfois je leur dis juste asseyez-vous et dites-vous vraiment le temps là que par exemple tu as passé à regarder mes stories, ça aurait peut-être été un temps que tu aurais pu prendre par exemple pour préparer à manger, et peut-être être honnête avec soi-même. Est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a l'envie? C'est deux choses différentes aussi.
C'est tout à fait deux choses différentes, ça c'est clair. Et je pense qu'on peut donner tous les conseils du monde, si on ne s'en approprie aucun, mais c'est peut-être tout simplement qu'on n'est pas prêt. Donc là c'est pareil, pas de stress, on n'est peut-être que dans l'intention justement. On n'est pas encore dans l'action. Donc c'est pas grave, je suis dans le mode intention, j'envisage, mais je ne suis peut-être pas prêt à commencer maintenant. Je prends de l'information, mais du coup, toute cette étape, c'est des questionnements, c'est une préparation. C'est pas une période non plus négligeable, puisque ça va me permettre après de me mettre à l'action plus facilement. Mais effectivement, être un peu honnête, et moi comme je dis souvent à mes patients, ce qu'on entame là maintenant, c'est un travail d'équipe. C'est pas moi qui sais tout et vous qui savez rien, c'est un travail d'équipe. Moi, vous allez me poser des questions, je vais vous guider, ça va être vous le principal acteur dans l'histoire. Et toujours, on va réévaluer les difficultés, ce qui est possible, pas possible. Finalement, après les entretiens, c'est beaucoup de réévaluation et de peaufiner, un peu comme un entonnoir. Moi, je symbolise souvent l'entonnoir. On arrive, il y a tout un flot d'informations, que ce soit de ma part ou de la part du patient, parce qu'il faut apprendre à se connaître et développer une relation de confiance aussi. Donc, on part d'un gros truc, là, un gros tas. Qu'est-ce qu'on en fait? On commence à le ranger un petit peu dans différents dossiers. On le peaufine, on l'affine, on découvre. Et petit à petit, on arrive à quelque chose de plus fluide. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Mais pour le cinquième conseil, ouais, je dirais quand même avoir ce qu'il faut à la maison et de la façon qui nous convient. Ça, c'est important.
Super. Franchement, là, j'ai adoré ce podcast parce que, encore une fois, même si on s'appelle quand même, qu'on se voit, qu'on en parle, j'ai encore appris plein de choses et je me suis encore dit, il va falloir que je repense à moi et pas à mon alimentation, à ce que je mange, parce que en soi, ce que je mets dans mon assiette, je le comprends plutôt bien et ça va, quoi, je le maîtrise. Mais mon comportement doit en fait plutôt changer. Ça serait hyper intéressant de s'en rendre compte. Donc merci beaucoup, Karine. Est-ce que tu as une petite conclusion à nous partager avant qu'on se sépare?
Disons que la petite conclusion et ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit énormément de messages au sujet de la nutrition et que tout le monde s'y perd un peu. D'ailleurs, le grand public a souvent du mal à le traduire ou savoir quoi faire. Et souvent, ça le confronte, nous on le voit tous les jours, à une certaine culpabilité. Et ça, vraiment, il faut arrêter ça. Si les messages nutritionnels étaient si efficaces que ça, aujourd'hui, le PNNS, tout le monde a dû en entendre parler, le Plan National Nutrition Santé, c'est un très bon outil pour nous professionnels, parce que vous voyez la face publique, mais il y a aussi toute l'approche derrière professionnelle. Mais c'est loin d'être suffisant, et si c'était si efficace que ça, ça se saurait. Pareil pour le tabac, quand on dit « fumais-tu », on a juste envie de dire « ah bon ?» Ah bon, je ne le savais pas. Mais pourtant, ça n'empêche pas les gens de fumer. Donc, c'est que le message n'est pas suffisant et que justement, l'intérêt, pour moi, il est vraiment dans l'accompagnement des personnes. Et ça, c'est très, très important pour redonner un petit peu de bon sens aux gens, leur faire comprendre qu'effectivement, aller vers une alimentation saine, c'est aussi retrouver un bien-être, mais un bien-être et aussi prendre soin de soi. De se dorloter, d'avoir beaucoup de bienveillance avec soi, et que c'est pas parce que on mange pas 5 fruits et légumes par jour tous les jours que il va nous arriver un truc grave demain. Je dis pas qu'il faut pas manger des fruits et des légumes, qu'il faut les évincer tous les jours. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais que si par exemple je fais que 2 repas dans la journée, ça va être compliqué pour moi de pas manger 5 fruits et légumes. Je peux peut-être en mettre de toute façon dans tous mes repas, mais ça atteindra peut-être pas 5 fruits et légumes. Mais c'est pas grave, déjà j'en ai pris à chaque repas. Revenir à des sens quand même un peu plus appropriés, et moi je trouve d'arrêter cette culpabilité qui finalement n'a pas d'impact à part névroser un petit peu plus les gens. Et je pense que de la névrose, ils en ont assez et dans le contexte social et dans le contexte environnemental et dans le contexte professionnel pour que, en plus sur un acte qui devrait être plutôt cool, on vienne en rajouter un petit peu plus par-dessus. Donc mon dernier message, ce serait détendez-vous, on va vous aider à retrouver du bon sens et tout va bien se passer.
Eh bien, super, franchement, super conclusion. En plus, c'est une jolie conclusion aussi parce que sur notre site Intention, qui sort, donc je le rappelle, qui ouvre ses portes le 7 septembre, les phrases que tu as dites sont dans le site, alors que bizarrement, Karine n'a pas encore vu.
Ah ouais, c'est vrai.
Mais les phrases de stop à la culpabilité, prendre soin de soi, renouer avec soi et son bien-être. C'est exactement tous ces mots-clés que nous, on a mis sur notre site parce que on veut pas d'une plateforme digitale où on va vous parler que de, et surtout qu'on ne parlera pas de, par exemple, il faudra peser 100 grammes de trucs pour être bien dans son corps. On va beaucoup parler, comme là on vient d'en parler, de bien-être, de s'écouter, d'apprendre ce que c'est, retrouver son plaisir, des choses comme ça, avec plein de recettes. Voilà, ça va être génial. On a hâte de vous retrouver là-bas le 7 septembre. Merci beaucoup, Karine, parce que c'était
merci
super.
Merci à toi.
T'interviewer pour la première fois.
Ouais.
Et on se dit donc à très vite pour un prochain épisode sur Intention. À bientôt. À plus.
À bientôt.